Bienvenue à tous à l'émission des jeunes reporters européens sur Hauts de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, fréquence 91.3. Aujourd'hui, on va parler de bière. Pas de réponse. Très bien, je pensais que c'était un sujet qui allait vraiment vous enthousiasmer et que vous allez tous faire « Wouhou, j'adore la bière !»
Mais si, justement, c'est pour ça que je suis là.
Donc aujourd'hui, voilà, exactement, autour de la table, on retrouve Lucia. On retrouve Richard,
salut.
Emeline, hello. Et Ingrid, et moi-même Claire. Donc aujourd'hui, on va commencer à faire le tour d'horizon de la bière en Europe centrale avec Emeline et Lucia.
Alors avant toute chose, on n'oublie pas que malgré le thème qu'on a pioché la semaine dernière, on rappelle qu'il faut consommer de l'alcool avec modération. Alors aujourd'hui, je voudrais plutôt vous conseiller une visite culturelle en rapport avec la bière, qui se situe effectivement en Europe centrale. Alors si vous passez un jour en Tchéquie, arrêtez-vous à Plzeň, c'est au sud-ouest de Prague, et c'est une petite ville qui est plutôt agréable à vivre. Il y a des tramways jaunes, il y a des maisons baroques dans tous les tons pastels qui existent, et il y a des dômes à bulbes dorés, c'est très joli à regarder. Et donc ce nom de Plzeň, ou Pilsen, vous évoquera peut-être quelque chose. Cette ville est en effet considérée comme le berceau de la Pilsen, ou la Pils, un type de bière que vous connaissez sûrement bien, et qui tire son nom de la ville dont je vous parle. Il s'agit de cette bière limpide, un peu pétillante et blonde, plutôt légère, qui fait partie de la catégorie des lagers. Et ces bières-là, les lagers, elles sont originaires de Bavière. On boit la Pilsen bien fraîche pour en apprécier les parfums, mais ça, c'est au musée de la bière que je l'ai découvert. Dans ce musée, on vous propose de découvrir ce qui se passe en coulisses avant que la boisson au houblon n'arrive dans nos pintes. Il y a une expo, par exemple, avec des reconstitutions, donc les mannequins très sympas, un peu glauques parfois, et des curiosités comme l'une des plus grosses pintes du monde. Je pense qu'elle est tellement grande que je pourrais m'asseoir dedans. Et il y en a aussi une toute petite. Beaucoup moins drôle, du coup, à déguster. Et par contre, en parlant de déguster, on a bien un petit verre final pour goûter la bière locale. Alors, on brassait des bières depuis le Moyen-Âge à Plzeň, mais c'est en 1842 que la Pilsner Urquell, que vous connaissez peut-être, c'est la bière claire et légère dont je vous parlais, a été inventée. C'est tout nouveau pour une population qui avait l'habitude de boire des bières à la robe plutôt trouble à cause des levures, et là, avec en fait tout un procédé, je vous épargne les détails, j'ai pas très bien compris non plus, et l'eau très douce de Pilsen, en fait, on a permis le résultat de cette bière très très claire. Le houblon, c'est une vieille histoire en Bohême. On peut remonter jusqu'au 9e siècle pour en trouver des traces de culture. Et on a même un certain Saint Wojtek, évêque de Prague, là je fais la petite pause histoire, qui juge la pratique du brassage, voire même la consommation de bière immorale. Donc au 12e siècle, il interdit ces pratiques. Il ne savait pas ce qu'il faisait, le pauvre. Et donc avec la création de la Pils à la fin du 19e siècle, on commence même à honorer la belle couleur toute neuve de la bière. Donc on troque les bonnes vieilles chopes en terre qui ne laissaient rien transparaître du tout de la boisson, et désormais on se procure de belles pintes en verre qui permettent d'admirer la dite couleur. Alors petite vengeance très drôle sur le Saint Wojtek dont je vous parlais, le pape Léon XIII s'est vu prescrire de la Pilsner Urquell par son médecin. Donc c'était au 19e je crois. Alors il faut savoir qu'en Tchéquie, la bière c'est une part importante de la culture nationale. Moi, quand j'y étais, on m'a beaucoup dit que les Tchèques sont les plus gros buveurs de bière au monde, avec une moyenne de 150 litres par habitant et par an. Et si vous vous demandez, la France n'est même pas dans les 20 premiers consommateurs mondiaux, hein. On est bien loin derrière. Donc il n'y a rien de surprenant en Tchéquie à boire une pinte de bon matin, et le but c'est pas du tout de se saouler, c'est juste de partager un bon moment. Et j'en parlais justement avec Lucia, qui vient de Slovaquie, et je pense que tu disais qu'il y a un peu la même culture en Slovaquie, non ?
Oui, justement, c'est un peu pareil. Chez nous, souvent, oui, la bière, c'est un boisson qu'on boit lors de nos apéros, mais c'est une boisson qu'on boit pas justement pour se bourrer la gueule ou pour se mettre en ambiance.
Ouais, ouais.
C'est quelque chose qu'on aime boire par rapport à son goût. Ce qui est intéressant, c'est que chez nous, par exemple, même si nous sommes souvent labellés comme des alcooliques de l'Est, tous les pays de l'Est, on n'a pas cette culture où on ose boire de l'alcool dans la journée. Comme vous le faites ici en France, par exemple, vous partagez une bouteille de vin à deux ou à trois pendant votre pause déjeuner. Chez nous, on n'ose pas. Par contre, on aime bien boire le soir et apprécier le goût de la bière.
Donc il y a plutôt une tolérance zéro en général par rapport à l'alcool.
Oui, exactement, c'est ça. Quand vous conduisez une voiture, la tolérance est zéro. Et ce que j'apprécie énormément parce que, voilà, je pense que les gens qui boivent une demi sont bien capables de conduire. Par contre, il y en a qui ne se rendent pas compte et qui se disent « Ok, je peux boire encore une et une douzième. » Et là, ça peut se terminer pas bien. Donc moi, je suis très pro la tolérance zéro.
Carrément, t'as bien raison. Et tu sais un peu comment ça se passe ailleurs en Europe ?
Mais ailleurs en Europe, j'ai eu l'occasion, grâce à mes études, de vivre dans plusieurs pays, autres que la Slovaquie. Juste pour vous donner une petite statistique concernant la Slovaquie, quand tu nous as parlé des pays où on consomme beaucoup de bière, en Slovaquie, c'est environ 63 litres par an et per capita. Mmh. Grâce à mes études, comme j'ai dit, j'ai vécu aussi... mis à part de la France, où on consomme environ 30 litres par an et per capita au Danemark. Le Danemark, c'est un pays très intéressant parce que apparemment c'est la nation qui est la plus heureuse au monde. Par contre, ils consomment beaucoup d'antidépressifs. Et c'est aussi la nation qui consomme beaucoup de bière. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 2008, cette tendance de boire de la bière baisse. À 2008, ils consommaient 78 litres par an et per capita. En 2016, que 62.
Ah oui.
Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas trouvé la raison qui est derrière.
Le prix aurait-il augmenté ?
Oui, s'il faut. Mais comparé à ses voisins suédois, où l'alcool est accessible que dans des magasins spécialisés, au Danemark, ce n'est pas le cas. Donc là, la bière est un peu partout. Et voilà, il aime boire beaucoup. Et... Avec joie. Et si je peux vous dire quelque chose par rapport à un pays qui ne se trouve pas dans l'Union européenne, c'est la Turquie, où j'ai eu l'occasion de passer quelque chose de plus que 5 mois. C'est un pays musulman. Donc contrairement aux pays en l'Union européenne, c'est un pays musulman. Et il y a certaines tendances qui... qui disent que voilà, on consomme, on ne fume pas, on ne boit pas, nanana. Depuis 2003, c'est l'année où Erdogan, le président actuel, est au pouvoir, le prix de la bière a augmenté de 580%.
Wow, c'est énorme.
Mon Dieu.
C'est comme ça, vivre dans une dictature.
Voilà. Quels sont en fait les résultats de cette augmentation de prix ? Déjà, la consommation a baissé de 10%. Par contre, il y a toujours des personnes qui adorent boire de la bière. Donc maintenant, le prix, les forces de brasser leur propre bière, soit à leur domicile, soit dans des petites brasseries. Ce qui est, à mon avis, un point très positif. Le point négatif est le taux des personnes qui sont tombées aveugles ou mortes à cause de la production d'alcool dans leur domicile. Parce que qu'est-ce que ça implique de produire de l'alcool chez soi, d'être éduqué, d'avoir des connaissances, comment faire, comment mélanger les substances différentes, etc., etc. Voilà.
D'où l'importance des normes. Des petites précisions utiles pour finir, d'ailleurs, si vous allez déguster une bière en Tchéquie, donc pas peut-être en Turquie à domicile quand on envoie les résultats. Vous demandez une bière dans un bar sans rien préciser, en vous contentant du jedno pivo prosim, on vous apportera déjà, ça c'est sûr, une pinte, et on vous apportera à coup sûr une 10, autrement dit une 10 degrés. Mais bien sûr, si vous préférez, vous pouvez demander une 12 ou même une 21. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce taux d'alcool de malade ? En fait, c'est juste qu'en Tchéquie, on ne mesure pas pareil, on parle de degrés Balling. Et en fait, c'est juste un pourcentage qui mesure l'extrait du moût avant fermentation, en fait. Donc ça a donné de drôles de situations où, innocente et ignare que j'étais, je buvais mes bières tranquilles en me disant, elles sont super légères pour des bières à 10 degrés quand même. Donc, important de savoir lire les étiquettes tchèques avant de partir. Et Claire, je crois que tu vas nous parler d'un autre type de bière à l'autre bout de l'Europe, non ?
Mais c'est ça, tout à fait. Moi, je vais vous emmener en Irlande. Parce que la bière, indéniablement, ça me fait penser, en fait, au voyage de fin d'études que j'ai fait avec deux amis après notre master en Irlande. Et c'est un peu touchant pour moi car c'était en fait la première fois que je partais en voyage comme ça. Et c'est le moment aussi où j'ai débuté mon aventure européenne. Et du coup, je suis contente parce que ça m'a menée ici. Donc, c'est trop cool. Et enfin, bref, l'Irlande. En Irlande, on a été voir un spectacle de danse celtique. On s'est rendu aux falaises de Moher. Mais surtout, on a visité la fabrique Guinness. Donc, aujourd'hui, je vous ai préparé un petit quiz des familles sur cette bière irlandaise.
Yes.
Et c'est parti.
Allez.
Donc en fait, première question. Donc attention, de quelle couleur est la bière Guinness?
Elle est noire.
C'est non. Faux.
Merde. Ah, scheiße.
Brune.
Elle est plutôt oui, elle est brune marron, mais elle est plutôt couleur noire. Elle est plutôt une robe noire.
Non, elle est rubis en fait.
Ruby, comment
ouais,
ça, Ruby?
Ouais, elle est rouge très 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 foncé. Et en fait, c'est pour ça, c'est à cause de l'orge germée qui est dans la bière. Voilà, mais c'est ça, donc c'était un petit piège et vous êtes tombé dedans, pauvre petit. Donc voilà.
On est des débutants, désolé.
Ouais,
c'est triste, hein, j'ai vécu un an en Irlande, je m'en suis jamais rendu compte.
C'était peut-être un peu trop bon.
Ah oui, oui, je pense.
Voilà. Question 2, vous savez qu'il y a une petite bille dans les canettes de
oui.
Guinness. Mmh. Et comment elle se nomme? C'est quoi son petit nom?
La petite bille.
La boule en plastique.
La boule de joie.
La boule de joie. Ce
la boule
être
noire.
Pas...
Elle est blanche.
Tout. Non, non, non. Ça s'appelle la widget, donc le bidule.
Okay.
J'étais un peu déçue, je pensais que vous alliez me dire des prénoms, genre Jean-Jacques, Martha, mais non, non. Vous avez juste dit des trucs hyper bien, hein, mais donc en fait, ça s'appelle le bidule. Et en fait, ces petites billes qu'on trouve dans les canettes, elles sont remplies de bière infusée au nitrogène. Mmh. Et comme ça, lorsqu'on ouvre la canette, ça change totalement la pression de celle-ci. Mmh. Et quand on la verse, c'est comme si on se versait une bière en pression dans un bar.
Qu'est-ce que c'est ingénieux.
Donc, moi, voilà. Je bois pas de la Guinness, donc je savais même pas qu'il y avait une bille dedans. Mais s'il faut, je vais prochainement m'acheter une canette juste pour tester.
Hein. L'expérience.
Et voir à quoi ressemble la bille aussi.
Ouais, c'est ça.
Peut-être qu'elle a une tête de Jean-Jacques.
Peut-être. Et en fait, ce qui est super drôle, c'est que pour les Anglais, cette petite bille est beaucoup plus importante qu'Internet. Donc en fait, je m'explique. C'est qu'en 91, ce bidule, en fait, il a reçu le prix de la reine en termes d'avancée technologique. Et il y avait également Internet qui était en lice cette année. Et en fait, ils ont voté pour la bille et non pour Internet. Donc maintenant, je pense qu'en 2018, on aurait peut-être un autre résultat. Mais c'est trop drôle, en fait, quand on regarde... Selon les Anglais, cette bille est plus importante qu'Internet. Donc voilà, question numéro 3, tenez-vous prêts. Le Guinness Book World of Records a été créé en 1951, mais à votre avis, pour quelle raison?
C'est-à-dire pour compter les records, du coup. Pourquoi ils
oui,
ont fait
être...
un... Non, parce que en fait, il y avait eu la plus grande Guinness du monde et ils voulaient absolument que ce soit inscrit quelque part.
Ah, ça pourrait être ça, mais non.
C'est pas plutôt pour une histoire
expert.
De... Ouais. C'est plutôt pour une histoire de Paris dans les pubs, une histoire dans le genre.
Exactement.
Pas mal.
En fait, c'est que les gens, du coup, dans les pubs, une fois qu'ils avaient un peu bu trop de Guinness, ils étaient un peu trop... ils se fâchaient, quoi. Ils se disaient, mais non, tu as tort, c'est ça. Moi, je suis sûre que c'est ça qui est plus gros que ça et tout. Et en fait, Hugh Beaver, qui était le directeur de Guinness à l'époque, il s'est fâché avec ses amis à propos d'un oiseau sauvage, enfin, l'oiseau sauvage le plus rapide d'Europe. Oui, enfin, c'était les priorités de l'époque, quoi. Voilà. Et donc, du coup, et comme ils n'ont pas réussi à trouver les informations dans les livres déjà existants, du coup, ils ont décidé de créer un ouvrage qui pourrait régler toutes les disputes de pub.
D'accord.
Voilà, donc merci beaucoup. Et maintenant, on assiste à des choses genre des aiguilles plantées dans les visages, des trucs du genre. Mais...
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Mais non, mais je veux dire, franchement, dans le
ah
livre
oui,
des records,
tout,
maintenant, il y a de tout, quoi. Des trucs horribles. Et c'est trop ça. Et en fait, au début, c'était juste pour savoir qui était l'oiseau sauvage le plus rapide d'Europe.
Et c'est qui, alors?
Ah bah ça, je sais pas, du coup, j'ai pas regardé.
Mais enfin, Claire.
Mais tu n'as qu'à acheter le livre des records Guinness et tu pourras regarder.
Très
Très bien.
Donc voilà, question 4. À votre avis, est-ce que la Guinness est plus ou moins calorique qu'une bière sans alcool américaine de type Bud Light ?
Moins. Ouais. Philippe dit moins dans la régie aussi.
Je sais pas, moi je dirais plus parce que c'est quand même vachement calorique comme truc. Hein. C'est très pâteux et tout.
Mais c'est pâteux à cause de la tourbe, non ? Je sais pas, moi.
on parle de manger liquide quand on boit une Guinness.
Et en fait, pas de... enfin, oui, du coup, enfin, vous avez plus ou moins raison parce que vous avez donné deux discours qui étaient opposés. En fait, c'est plus ou moins la même chose parce que la Guinness, c'est la bière la plus légère qui existe, une des bières les plus légères qui existe, qui fait environ 130 calories et qui n'a que 4,2% d'alcool. Donc, elle n'est pas forte du tout et en gros, voilà.
C'est génial.
Pas calorique.
Une bonne raison.
Et c'est ça, et je pense que c'est cette couleur et cette mousse qui nous donne l'impression que oh mon dieu, c'est tellement sucré, c'est tellement lourd et tout, mais en fait, pas du tout. Donc voilà. Et dernière question. Ingrid, je pense que tu connaîtras la réponse. Combien de temps cela prend pour faire couler la plus parfaite des pintes Guinness ?
Plusieurs minutes, non ? Parce que du coup, tu dois verser une première partie, attendre que ça repose, puis ensuite verser une deuxième partie. Oui, j'ai mon diplôme de ça.
Oui, parce que Ingrid est allée à Dublin et a fait une petite formation de 5 minutes sur comment verser une pinte Guinness et t'as reçu un diplôme, c'est ça ? C'est ce que tu me racontais hier.
Oui, qui est resté assez longtemps affiché sur mon frigo. Voilà.
Comment ça, il n'y est plus ?
Non, je sais pas où il est d'ailleurs. Je vais essayer de
c'est
le rechercher.
Scandale. Non, mais c'est ça, plusieurs minutes, t'as raison. C'est 2 minutes, enfin 119 secondes et demie.
Waouh.
2 minutes.
Est-ce que c'est un record qui est inscrit dans le Guinness Book of Records ?
Ça, je sais pas. Mais en fait, voilà, il faut verser les 3 quarts d'un coup, laisser reposer une minute et revenir. Donc voilà, maintenant vous savez tout.
On sait tout sur la Guinness et du coup on peut vérifier si un bar sert bien les Guinness.
Voilà, c'est ça. Et aussi, fun fact, la Guinness n'a jamais le même goût dans plein d'endroits. En fait, en Irlande et à Dublin, elle aura un goût spécifique et elle répond pas très bien au transport. Du coup, si vous en buvez ailleurs, elle aura jamais le même goût. Donc voilà. Donc, moralité de l'histoire, si vous voulez boire de la vraie Guinness, il faut aller à Dublin.
Bah écoute, c'est parti. Merci Claire.
Et maintenant, on va faire une petite pause musicale avec...
Non.
Ah bah mince, on fait plus de pause musicale. Bon bah, une prochaine fois peut-être. On va passer à Ingrid. Alors, tu vas nous parler des femmes et de la bière.
Alors oui, petit changement de micro. Les femmes et la bière, oui, c'est un petit peu ma thématique, mais c'est pas très très clair. En fait, j'ai longtemps hésité quand on a tiré la petite étiquette bière la semaine dernière. Il y avait aussi Sandrine, qui est capitaine à Odeur Radio, qui m'avait dit, oui, ça serait quand même bien de parler de la journée du droit des femmes. Alors je me disais, comment je vais faire ? Parler de bière, parler de droit des femmes, qu'est-ce qui va se passer ? Et du coup... oui, parce que c'était le jeudi 8 mars dernier, hein, je sais pas si vous vous rappelez, et c'est une journée qui a été créée par l'ONU pour se rappeler le chemin accompli en matière de droits des femmes, mais aussi le chemin qui reste à accomplir. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez qu'en Union européenne, le pays avec la plus faible différence de salaire entre hommes et femmes, avec travail et compétences égales, c'est la Roumanie ? Est-ce qu'il y en a qui savaient ? Et est-ce que vous pouvez deviner quel est le pays le plus mauvais élève en la matière ? C'est un pays du nord de l'Europe, étonnamment. Et c'est un drapeau tricolore avec la forêt, la neige.
Oh, Estonie.
Exactement. Du coup, en Estonie, il y a encore des progrès à faire. Et j'en profite pour faire mes salutations à l'Islande, qui est le premier pays à avoir rendu illégal les différences de salaire entre hommes et femmes. Donc ça, c'est assez cool. Et peut-être une idée à reproduire en Union européenne. Du coup, pour en revenir à cette histoire de bière, vous vous demandez certainement quel est le rapport avec le droit des femmes. Eh bien, je vous répondrai que les inégalités hommes-femmes n'existent pas que dans les contrats, que dans les quotas, mais aussi ni non plus que dans le droit. Mais aussi, elles existent d'abord dans nos têtes, et c'est à nous, parce que nous, on s'y connaît, on n'est pas du tout pour les inégalités. Disons, nous, les autres, c'est nous qui les propageons, parfois, sans nous en rendre compte. Et là, vous dites, d'accord, merci Ingrid,
T'as bac plus 5, tu nous sors un truc aussi banal, et puis cette histoire de bière, quand est-ce qu'elle arrive ? Eh bien, elle arrive, mon histoire de bière. En fait, c'est une anecdote personnelle que je voulais vous raconter. Ça a eu lieu quand j'avais 15 ans, et que j'étais une ado rebelle, que j'essaie de rester encore un petit peu, voilà, vous m'imaginez, avec ma mèche, mes chaussures de skate, mon pad d'ab tout déchiré, voilà, le lycée. Et du coup, j'étais chez moi, et chez moi, en fait, personne ne buvait de bière, ni ma mère, mon père, de temps en temps au restaurant, mais on n'avait pas de bière dans le frigo, et jusqu'au jour où je sais pas pourquoi mon père avait décidé d'acheter un pack de bière pour prendre l'apéro, et c'est ce jour-là que, parce que moi déjà je buvais quelques petites bières en terrasse, des demi-pêches, voilà, quand on est ado, vous vous rappelez bien, et j'ai voulu un peu provoquer mes parents en leur demandant est-ce que moi aussi, à la place de mon multivitaminé, je pourrais boire une petite 16 pour l'apéritif. Et là, drame à la maison, les catastrophes dans la cuisine, des pleurs, des cris, des parents choqués, outrés, perdus, mais quel déconvenu. Et cette phrase que je n'oublierai mais jamais, tant j'en fus scandalisée, mais Ingrid, enfin, la bière, c'est pas une boisson pour femmes. Ah. 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 Imaginez ma tête et mon père qui renchérit. Mais oui, enfin, Ingrid, les femmes, elles boivent du vin, elles boivent du Porto, un martini. La bière, c'est vulgaire. Oh. Ça sent Emeline est scandalisée à côté de moi, avec toutes ces inepties, cette histoire, alors que, évidemment, j'aurais accepté qu'on me refuse un apéritif en raison de mon âge, parce que j'étais mineure, mais je refusais qu'on me le refuse pour mon genre. Une femme ne devrait pas boire de bière, et puis quoi encore ? Je ne dois pas porter de pantalon non plus, c'est ça, hein ? Du coup, j'ai fini rapidement cette histoire en disant que mes parents, étant des personnes assez intelligentes, sont revenus sur cette décision et que maintenant nous buvons tous des bières à table, même ma mère, donc on est tous très contents. Et de dire, blablabla, on se demande, pardon, je me suis perdue, il y a des mouvements partout à côté de moi. Bref, tout ça pour dire que quand vos parents vous disent des bêtises de ce genre, quand il y a des débats familiaux et qu'on n'ose pas intervenir parce qu'on va vexer papy machin, on va vexer tati machin, n'hésitez pas à dire quand ils disent des bêtises, parce que des fois, ils reconnaissent qu'ils ont tort et que bien, les femmes et les hommes, on a tous le droit de boire des bières, on a tous le droit de faire ce qu'on veut, ça n'a rien à voir avec notre genre. Et sur ce, je passe la parole à Richard pour une petite leçon de gueule de bois.
Exact. On va faire rapidement parce qu'il nous reste quand même pas beaucoup de temps. Donc bonjour à tous. Une émission qui est aujourd'hui placée sous le signe de la bière, délicat fruit de la fermentation de l'orge et du houblon, l'un des plus vieux breuvages de l'humanité, dont on estime que les premiers litres ont été brassés durant l'Antiquité, il y a 10 000 ans en Mésopotamie. Sacré morceau d'histoire qui passe dans notre gorge quand on boit une bière bas de gamme payée trop cher dans un des nombreux bars de Bordeaux centre. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, si la bière est ancienne, c'est que la consommation de bière l'est tout autant. Logique. Et qui dit consommation, dit abus. Et qui dit abus de bière, dit gueule de bois douloureuse, regret le lendemain. Et nous imitons sûrement nos ancêtres lorsqu'on glande sur le canapé en lendemain de soirée, la main dans le caleçon devant le premier programme TV ou la première vidéo YouTube pas trop prise de tête. Alors oui, la gueule de bois est un mal universel, Ingrid. Et les remèdes contre les lendemains qui déchantent existent et se trouvent partout. Que ce soit loin de nous dans l'espace, par exemple en Corée avec une soupe spéciale gueule de bois, mais également dans le temps. Par exemple, saviez-vous que durant les périodes de la Rome antique, on mangeait des canaries frites ? Voilà. Oui, ça a l'air délicieux. Voilà, j'ai donc voulu m'intéresser à un morceau de la culture européenne, et comme vous l'imaginez, avec ce genre de sujet très sérieux, j'ai dû aller sur des sites internet l'étant tout autant, comme le Huffington Post, topsanté.com ou encore Topito. Bon, d'après d'intenses recherches, j'en suis arrivé à une petite liste des spécialités que je vais déclamer ici. Alors pour commencer, on va partir chez nos amis ennemis anglo-saxons. Chez eux, recette classique, manger gras en quantité, le classique English breakfast et votre meilleur ami post-cuite. Emeline a levé les doigts en l'air. De l'autre côté de la mer celtique, chez ces sauvages irlandais, coucou Claire, on préfère s'enterrer dans le sable quand on a bu un peu trop de Guinness. Ne vous recouvrez pas trop la tête, sinon votre mal de crâne pourrait passer de manière un peu trop définitive et demandez à votre mate de vous déterrer une fois votre mal passé. À titre personnel, je pense que cette technique existe pour trouver une utilité aux plages irlandaises, vu le climat dit de merde qui existe là-bas. Donc maintenant, partons en Pologne. On préfère ici, en lendemain d'abus, boire les jus de bocaux de cornichons. De la bonne grosse saumure, bien bien vinaigrée, salée, tout ça. On dirait plus une punition qu'autre chose. Mais les Polonais ne sont pas les seuls à aimer ingurgiter des trucs peu ragoûtants le lendemain de soirée. En Belgique, figurez-vous que la salade de hareng est la solution pour le mal de tête, avec du hareng mariné, des oignons, des poivrons et du paprika. Bon, maintenant, je vous propose de retourner en Estonie, troisième fois qu'on l'évoque aujourd'hui. Et là, on rentre dans la catégorie du lendemain de cuite très très dur. Alors, quelle est la recette du lendemain de fête en Estonie ? Alors,
le sauna.
Oh, c'est un peu dans le même idée, bien vu Claire. Alors, prenez un bol, Mettez de la vodka dedans et diluez-le avec de l'eau, mais pas trop non plus. Prenez ensuite des chaussettes, trempez-les dans de la vodka et essorez-les avant de les mettre à vos pieds. Le but est ici de se mettre au chaud et de suer. En fait, faire sortir le mal, en quelque sorte. D'ailleurs, ouais, c'est très intéressant. D'ailleurs, il paraît que c'est la méthode qui est utilisée en Estonie pour faire baisser la fièvre. Bon, pourquoi pas, on juge pas. Surtout quand on connaît la méthode hongroise. Ingrid, tu m'as raconté qu'en Budapest, on t'avait proposé une carotte pour soulager de la gueule de bois. Eh bien, t'as été très très chanceuse, parce que selon plusieurs sources internet toujours très sérieuses, il faut se servir un verre d'eau de vie. Ça passe. Il faut ensuite y rajouter une fiente d'oiseau. Ça passe déjà beaucoup moins. Alors, j'ai pas d'explication sur ça. Je connais pas le type qui s'est dit « Et si jamais je mélangeais guano et alcool ?» Je n'explique pas. Mais alors, je pense que la palme revient à l'Italie. Enfin, surtout à la Sicile. Là-bas, si jamais vous abusez de bière ou de Chianti, il faut aller le lendemain chez votre boucherie de quartier. Regardez ensuite votre boucher dans le blanc des yeux et demandez-lui un pénis de taureau séché. Et ouais, l'organe génital de bovidé est, semble-t-il, un remède efficace contre la gueule de bois. Pourquoi pas, hein. Souvenez-vous que c'est un plat qu'on peut manger après une corrida en Espagne, hein. Bon, au final, on rigole, mais on est quand même assez facilement dégoûté par cette technique dont on se demande bien comment des personnes ont pu avoir des idées être aussi étranges, surtout quand elles sont censées faire ça sobre. Donc, personnellement, je pense qu'il y a deux conclusions à tirer à ce tour d'Europe du grand n'importe quoi. Premièrement, chercher une solution à une cuite trop excitée est quelque chose d'universel. On pourrait alors dire maladroitement que « De tout temps, Homo sapiens cherche une solution à la plus grande question de l'univers. Comment soulager sa gueule de bois ?» Une preuve que faire la fête et abuser de la boisson et de toute autre substance festive est presque quelque chose d'animal que l'on partage tous. Et enfin, en deuxième conclusion tout aussi sérieuse, c'est que ces recettes de grand-mère, car c'est ce qu'elles sont, des recettes de grand-mère, nous paraissent atypiques pour nous, mais c'est que les pratiques de nos voisins nous semblent toutes tendues. N'oubliez pas, et surtout n'oubliez jamais, que notre pays se régale d'escargots gluants, fait le vin avec ses pieds, et qu'un de ses présidents adorait manger de la tête de veau. Philippe, dédicace à Chirac. La majorité des personnes sur Terre et en Europe sont exactement comme vous. Ils cuvent leur cuvée de la veille sur leur canapé, vont se chercher un McDo, slash kebab, slash junk food. Et sur cette conclusion, je vous laisse avec un ami à moi qui conclura pour moi cette chronique sous le signe de la bière.
L'alcool, la cause et la solution de tous nos problèmes dans la vie.
Et surtout, n'oubliez pas de boire avec modération. L'alcool, c'est fun, mais les gens trop bourrés qui savent pas se contrôler, ça l'est beaucoup moins.
Eh ben, écoute, sur ces belles paroles, on va clôturer cette émission, n'est-ce pas, Claire ?
Oui, on va tirer au sort le thème pour la semaine prochaine.
Claire ne parle pas dans son micro.
Ah, mais regarde, Philippe. On va tirer au sort le thème pour la semaine prochaine.
On fait le roulement de tambour artisanal.
Train !
Train.
Voilà.
Ok.
Bah si, c'est parti. Pas mal.
Emeline saute de joie. Emeline, calme-toi, Emeline.
Bon bah merci à tous pour cette émission et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir à tous.